Vous écoutez, on lit pour vous.
Deux voyageurs. Un texte d'Yves Lafont, paru le 6 novembre 2025 dans l'Aurore boréale. Il y en a pour qui leur destinée semble toute tracée, et ce, depuis leur tout premier pas, peu importe qu'ils se dirigent vers le bien ou vers le mal. Les gens nés sous cette étoile iront leur chemin pendant toute une vie en suivant des traces en apparence dessinées juste pour eux. Tout en allant de l'avant sans s'enfarger dans les grandes questions, ils apprendront tout de même de grandes vérités. Pour d'autres, le parcours sera plus confus. Ils semblent voués à se compliquer l'existence en empruntant une multitude de chemins insensés. Des chemins de traverse bourrés d'obstacles, parfois périlleux, pour finir par ne découvrir que de banales pseudo-vérités. C'est mon cas. Mais aussi et surtout celui de cet homme, rencontré il y a fort longtemps, lors d'un voyage mémorable. J'ai pris une éternité à en apprécier toute la portée. Et pour tout dire, je suis encore sous l'impression de n'avoir absorbé qu'une partie de son histoire, encore aujourd'hui. J'ai rencontré ce type au début des années 80, lors d'un voyage en train vers le Grand Nord canadien. L'économie, comme happée par un tsunami, s'était effondrée pendant cette période de manière catastrophique en faisant exploser les taux d'intérêt. À la suite de ce tour de passe-passe, l'or, en tant que valeur refuge, avait connu une flambée des prix sans précédent. Jeune journaliste à l'époque, j'avais toujours été fasciné par ces histoires extravagantes de chercheurs d'or de légende du temps du Klondike. Je me demandais si, en ces temps modernes, fatals à tout romantisme, il subsistait encore au Yukon des aventuriers de cette race prêt à tout pour avoir la chance d'extraire des entrailles de la terre ce métal précieux. J'étais curieux aussi de vérifier s'il était vrai que le seul miroitement de son reflet suffisait à frapper d'une fièvre incurable de cupidité même les esprits plus rationnels et désintéressés. J'avais réussi à convaincre mon patron, éditeur d'une revue mensuelle d'actualité financière, de m'assigner ce voyage. Je lui avais promis au moins une douzaine d'histoires à faire rêver ses lecteurs pendant un an. Ils étaient aussi avides de bonnes histoires que de dollars. Pour me tremper dès le départ dans cette atmosphère de ruée vers l'or, comme en 1898, qui inspira de grands auteurs de l'époque, de Jack London à Charlie Chaplin, j'ai pris un billet de train. Je comptais voyager ainsi de Montréal jusqu'à Edmonton, où je louerais un camion pour parcourir la deuxième moitié du périple vers Dawson. J'ai pris le train un mardi matin. Centre-ville de Montréal, gare Bonaventure. Nous sommes arrivés à Toronto en milieu d'après-midi. Ça grouillait de gens préoccupés par leurs affaires quotidiennes, sûrement très importantes, mais importante pour eux seuls. Ils me pressaient de laisser derrière moi, sur les rails infinis de ce chemin de fer, le tumulte de ces vies urbaines. Assis tout seul au bar de cette gare, attendant le départ du soir, je me voyais déjà, une assiette de prospecteur dans les mains, sur la grève de la rivière Klondike, à trier ces scintillantes petites pépites. Bien qu'encore à des milliers de kilomètres de ces cours d'eau féeriques, je sirotais du Jack Daniels pour me donner une contenance, comme pour tenter de ressembler à ces aventuriers irréductibles et barbus. La fièvre de l'or commençait-elle déjà à me saisir? Peut-être était-ce moi qui la saisirais à bras-le-corps. Vers les 11 heures du soir, soit une heure après le départ, je me suis dirigé vers ma chambrette, l'esprit un peu embrumé par tous ces verres de bourbon enfilés pendant l'après-midi. au grincement des roues sur les rails, dans le tangage du wagon berçant mon lit, je me suis endormi comme un bébé dans la nuit ontarienne. Au matin, à mon réveil, je suis resté étendu dans mon lit, sortant du mur comme un tiroir à la hauteur de la fenêtre. J'ai pu faire ainsi la grasse matinée en admirant le paysage forestier défilant le long de la voie ferrée. D'après la densité de cette forêt, j'estimais que nous devions être rendus quelque part dans le nord de l'Ontario. Les grands centres étaient définitivement derrière nous. Je trouvais fort agréable de pouvoir dormir, puis de me prélasser hors du temps, tout en parcourant des milles et des milles comme sur un tapis roulant. J'en conclus dès lors que le train s'avérait une plaisante manière de voyager. Puis, l'envie pressante d'un bon café se fit sentir. Une fois habillé, en marchant dans le couloir vers le wagon-restaurant, je me suis amusé à me demander si, lors de ce voyage, je serais témoin d'un meurtre à la Agatha Christie, où s'improviserait quelque Hercule Poirot nordique, disposant de quelques jours seulement pour démasquer le coupable. Vu l'heure tardive de l'avant-midi, le wagon-restaurant était presque vide. Je m'y attardai pas trop longtemps. Je ne voulais pas importuner le personnel qui s'affairait à préparer la salle à dîner pour le midi. Je me suis contenté donc d'une visite sommaire des lieux. Tout avait l'apparence d'un train classique, comme on en voit au cinéma. Le wagon-restaurant, d'une propreté impeccable, ornait ses tables de nappes blanches et d'un délicat bouquet de fleurs. Après avoir traversé trois wagons-lits composés de couchettes cachées par d'épais rideaux noirs, on arrivait au wagon-bar. Celui-ci était meublé de quatre ou cinq longues banquettes en forme de fer à cheval et recouvertes de cuir rouge. Un barman à chemise blanche et nœud papillon noir assurait le service et me servit mon deuxième café. À l'avant de ce wagon se trouvaient deux wagons de deuxième classe munis de sièges libellés super confort. Ce ne sont en réalité que des sièges confortables, certes, mais qui font aussi office de lit la nuit venue. À se demander si, après trois ou quatre jours et nuits sur le même siège, le voyageur leur accordera toujours leur titre de « super confort ». Quand vint l'heure du lunch, le maître d'hôtel, fort poli, m'assigna une table déjà occupée par trois autres passagers solitaires qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. La seule chaise libre où je pris place était orientée vers l'arrière du train. Ce qui est bien avec les voyages en train, pour une personne sociable, c'est la quantité d'occasions d'engager une conversation avec des inconnus. Les circonstances rendant la fuite impossible, ils auront de la difficulté à vous éviter ou vous ignorer. C'était « Deux voyageurs », un texte d'Yves Lafont, paru le 6 novembre 2025 dans l'Aurore boréale.
Une nouvelle étude met en lumière le lien entre les maladies cardiaques et le risque de zona. Un texte de la rédaction paru le 23 octobre 2025 dans Cision. Les résultats révèlent que les adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire présentent un risque accru de 15% de zona. Les résultats montrent une augmentation du risque de zona allant jusqu'à 27% chez les adultes présentant deux maladies chroniques ou plus, comparativement à ceux qui n'ont pas de tels problèmes de santé. Les résultats d'une nouvelle étude rétrospective, VEO-000477, s'ajoutent à la recherche révélant un lien entre les maladies cardiovasculaires, MCV, et l'herpès zoster, communément appelé Zona. Les conclusions de l'étude offrent une meilleure compréhension de l'incidence et du risque du Zona chez les personnes atteintes de maladies chroniques, notamment de MCV. Les résultats de l'étude seront communiqués cette semaine au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire qui se déroule à Québec. On estime généralement que le Zona, causé par la réactivation du virus à l'origine de la varicelle, touche une personne sur trois au cours de sa vie. Les résultats de l'étude ont révélé que la présence d'une maladie cardiaque augmentait de 15% les risques de développer le Zona. Chez les personnes atteintes de deux maladies chroniques ou plus, notamment de MCV, d'asthme, de diabète ou de MPOC, le risque de Zona a augmenté jusqu'à 27%. Selon les données, le taux de Zona chez les patients atteints de MCV était plus élevé chez ceux âgés de 65 ans et plus. Ce constat est cohérent avec l'immunosénescence, l'affaiblissement naturel du système immunitaire qui survient à mesure que nous vieillissons et qui réduit la capacité des personnes âgées à lutter contre les infections, les exposant ainsi à un risque plus élevé de maladies graves. Le Dr. Mark Loeb, professeur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université McMaster et auteur principal de l'étude, a déclaré « Les résultats de cette recherche soulignent l'importance de comprendre l'interaction complexe entre des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires et le Zona. La découverte de ce lien pourrait aider à éclairer la pratique clinique et, en fin de compte, pourrait mener à la mise en place de meilleurs soins préventifs contre le Zona chez les populations vulnérables. Cette étude s'ajoute à l'ensemble croissant de données probantes qui établissent un lien entre les MCV et le Zona. Une étude distincte a montré que le risque d'événements cardiaques et cérébrovasculaires indésirables majeurs augmentait de 19% au cours de l'année suivant un épisode de Zona, ce qui laisse supposer une relation bidirectionnelle entre les deux maladies. Dr. Michelle Horn, directrice médicale nationale à GSK, a déclaré « On estime qu'au Canada, un adulte sur 12, soit 2,6 millions de personnes, vit avec une maladie cardiaque diagnostiquée et que plus de 8 millions de Canadiens sont atteints de multimorbidité. Ces résultats fournissent des renseignements importants sur les risques pour la santé auxquels ces patients peuvent être exposés et soulignent combien il est important de comprendre et de prendre en charge les répercussions qu'a le Zona, de façon plus large, sur la vie quotidienne et la santé à long terme des patients. Le document complet de l'étude sera envoyé à une revue à comité de lecture pour une publication prévue d'ici fin 2025. À propos de l'étude VEO-000477, l'étude VEO-000477 a été menée par GSK en collaboration avec le Dr. Mark Loeb de l'Université McMaster, le Dr. Philip Baer de l'Ontario Medical Association et avec l'appui d'IQVIA Solutions Canada Incorporé. Elle comportait une analyse rétrospective des dossiers médicaux administratifs de l'ICES, anciennement l'Institute for Clinical Evaluative Sciences, répertoriant les cas de Zona chez les Ontariens de 18 ans et plus, enregistrés sur plus de 11 ans entre avril 2011 et le 31 mars 2022. À propos du Zona, herpès zoster. Zona est le nom courant de l'herpès zoster. Le Zona est causé par la réactivation du virus varicelle Zona, VZV, soit le même virus que celui qui est à l'origine de la varicelle. 90% des Canadiens adultes ont eu la varicelle et risquent de développer le Zona, et une personne sur trois développera le Zona au cours de sa vie. Le zona se présente habituellement sous forme d'éruptions cutanées s'accompagnant de vésicules douloureuses sur la poitrine, l'abdomen ou le visage. Les douleurs sont souvent décrites comme une sensation de douleur aiguë, de brûlure, de coup de poignard ou de choc électrique. Outre l'inconfort de l'éruption cutanée, la maladie provoque une douleur sous-jacente dans les nerfs que les personnes qui en sont atteintes décrivent comme une brûlure, une puissante palpitation ou un coup de poignard. La douleur peut être suffisamment grave pour nuire au travail et à d'autres activités quotidiennes aussi simples que s'habiller. Jusqu'à 40% des personnes atteintes de zona signalent au moins une complication de la maladie, comme la névralgie post-zostérienne, NPZ, une douleur névralgique de longue durée qui peut persister plusieurs mois, voire des années. Plus rarement, le zona peut entraîner des infections bactériennes de la peau, une faiblesse, une paralysie musculaire et une perte de l'ouïe ou de la vision. C'était une nouvelle étude met en lumière le lien entre les maladies cardiaques et le risque de zona. Un texte de la rédaction paru le 23 octobre 2025 dans Cision.
La crise climatique n'attendra pas l'accessibilité universelle, une urgence humaine pour les personnes en situation de handicap, un texte par Walter Zelaya, paru dans Paraquad, numéro 168, automne 2025, hiver 2026. Le temps presque estival du mois d'octobre, que je trouve si agréable, me rappelle rapidement un fait brutal. La nature est en pleine mutation. Vagues de chaleur intense, inondations soudaines, épisodes de smog. Les changements climatiques ne sont plus une menace hypothétique, mais une réalité palpable qui s'immisce dans nos vies. Pourtant, au milieu de ces bouleversements, il est une vérité qui reste souvent dans l'ombre, l'impact disproportionné de cette crise sur les personnes en situation de handicap. Nous considérons qu'il est essentiel d'humaniser cet enjeu, de le ramener à l'échelle de l'individu, car la lutte pour le climat est indissociable de la lutte pour la justice et l'inclusion. Pour beaucoup d'entre nous, la chaleur extrême est un désagrément gérable. On cherche un endroit climatisé, on s'hydrate. Mais pour une personne tétraplégique dont le corps peine à réguler sa température interne ou pour une personne avec une maladie chronique complexifiée par l'air vicié, cela peut rapidement devenir une urgence vitale. Il ne s'agit pas d'une question de faiblesse individuelle, mais une tragique conséquence de systèmes qui n'ont pas été pensés pour la diversité humaine face à un risque accru. L'épreuve de l'évacuation dans un système non inclusif. Imaginez l'impensable. Une inondation force l'évacuation de votre quartier. L'information circule vite, souvent via des canaux qui excluent les personnes ayant une déficience auditive ou visuelle. Mais ce n'est pas tout. Comment un aîné en fauteuil roulant, vivant au sixième étage, va-t-il pouvoir descendre sans électricité et donc sans ascenseur, alors que les secours sont débordés et que les plans d'urgence ne prévoient pas toujours de moyens d'évacuation adaptés? Les études sont formelles. Les personnes handicapées sont beaucoup plus susceptibles de mourir ou d'être blessés lors de catastrophes. Au Québec, si nous sommes fiers de notre filet de solidarité sociale, bien que malmené ces temps-ci par le gouvernement, ces événements extrêmes viennent déchirer le voile des apparences et révéler les failles béantes de nos mesures de secours pour faire face à de telles catastrophes. Les refuges d'urgence sont-ils accessibles? Y a-t-il du personnel formé pour les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, PSH, en termes d'hygiène ou d'équipement spécialisé? Trop souvent, la réponse est non. Nous finissons alors par devoir choisir entre abri de fortune face à l'urgence climatique et perte d'autonomie, même de dignité, du fait de survivre dans un environnement inadapté. Rappelons-nous la pandémie, alors que nous croyons notre système de santé capable de faire face aux pires difficultés, il s'est écroulé comme un château de cartes aux premières alertes. Ne renouvelons pas l'expérience et apprenons de nos erreurs passées. Le double fardeau de la déficience motrice face aux éléments. Pour les personnes ayant une incapacité motrice, qu'il s'agisse d'une lésion médulaire, de paralysie cérébrale ou de tout autre trouble de la mobilité, les changements climatiques ajoutent des couches de complexité à un quotidien déjà parsemé d'obstacles. Pensons aux équipements technologiques. De nombreux fauteuils roulants motorisés, lits ajustables, respirateurs et autres aides techniques sont alimentés par l'électricité. Les tempêtes, qui entraînent des pannes de courant prolongées, représentent une menace directe à la santé et à la sécurité des PSH. Les événements climatiques extrêmes peuvent aussi affecter les infrastructures qui assurent l'autonomie comme les rampes d'accès. Un autre point trop souvent négligé est la mobilité. Les services de transport adaptés, sur lesquels des milliers de Québécois s'appuient, sont souvent les premiers perturbés ou suspendus en hiver. Pour une personne qui dépend de ce service pour ses rendez-vous médicaux, ses soins ou son travail, une interruption peut entraîner l'isolement complet. Si l'on ajoute à cela les routes impraticables, l'accès aux secours ou aux soins de santé revient à jouer au jeu potentiellement mortel de la roulette russe. L'effet boule de neige des inégalités. L'impact des changements climatiques ne se limite pas aux événements les plus catastrophiques. C'est aussi une aggravation insidieuse d'inégalités sociales déjà criantes. On parle ici d'un fardeau climatique disproportionné. C'est l'étudiant avec un trouble du spectre de l'autisme dont l'anxiété est exacerbée par les perturbations de la routine. C'est la mère de famille vivant avec une douleur chronique qui doit choisir entre payer sa facture d'électricité pour faire fonctionner son climatiseur ou acheter sa médication. L'impact psychologique de ces menaces récurrentes est tout aussi dévastateur. Vivre constamment avec l'anticipation d'une crise, panne, évacuation, perte d'autonomie, génère une éco-anxiété profonde, particulièrement aiguë chez les personnes dont la sécurité repose sur une routine fragile. Et avec une incapacité motrice, la question n'est pas si l'on peut évacuer. Mais comment survivre à la menace sans perdre sa dignité, voire même sa vie? Pour une transition juste et inclusive, la vulnérabilité n'est pas une fatalité, mais la conséquence de barrières imposées par la société. Les organismes communautaires, travaillant pour les droits des personnes handicapées, représente la conscience d'une société plus juste, équitable et résiliente. Aujourd'hui, face à la crise climatique, nos voix sont plus importantes que jamais. Mais pour qu'elles soient réellement justes, la transition écologique doit être fondamentalement inclusive. Cela signifie concrètement l'intégration significative des personnes handicapées et des organismes qui les représentent dans l'élaboration des plans d'urgence, des politiques d'adaptation et des programmes de réduction des risques. On ne peut plus penser à nous après coup en faisant de simples ajustements. Nous sommes des experts de nos vies autant que des porteurs de solutions. Nous détenons le savoir-faire de l'adaptation et de l'innovation dans le domaine. Cela signifie concrètement la création de réseaux de soutien communautaire résilients. Il est impératif de mettre en place des systèmes d'alerte et d'entraide qui ciblent spécifiquement les PSH, notamment les personnes isolées ou dépendantes de l'électricité. Cela passe par des listes d'enregistrement prioritaires auprès des services d'urgence et des compagnies d'électricité, ainsi que le financement d'organismes capables d'assurer des visites de courtoisie et des vérifications en cas d'événement majeur. L'accessibilité universelle garantit des infrastructures d'adaptation. Nous parlons d'abris, de transports d'urgence, de haltes chaleur ou de haltes fraîcheur, des endroits qui permettent de se réchauffer en hiver ou se rafraîchir en été. Les systèmes de communication doivent également être accessibles à tous les types de handicap. Et il faut inclure l'installation de générateurs accessibles dans tous les immeubles à logements neufs et existants de plusieurs étages. Cela signifie concrètement l'investissement dans la recherche et l'innovation inclusive. Le gouvernement et les institutions de recherche québécoises doivent financer des études visant à mieux comprendre les vulnérabilités croisées, handicap, pauvreté, âge, et développer des solutions qui intègrent l'accessibilité, et ce, dès la conception des mesures d'adaptation climatique. La crise climatique nous oblige à repenser notre rapport au monde et à l'autre. Nous savons que la résilience d'une société se mesure à la façon dont elle prend soin de ses membres les plus vulnérables. Pour les personnes en situation de handicap, il ne s'agit pas seulement de survivre à la prochaine canicule ou à la prochaine inondation, il s'agit de s'assurer que le droit fondamental à la sécurité, à l'autonomie et à la vie ne soit pas sacrifié sur l'autel de l'inaction, de la négligence ou de l'oubli. C'était « La crise climatique n'attendra pas l'accessibilité universelle, une urgence humaine pour les personnes en situation de handicap », un texte de Walter Zelaya paru dans Paraquad numéro 168, automne 2025, hiver 2026.